Je vous propose de vous donner la parole immédiatement, aussi bien par rapport à la problématique de cette table ronde qu'aux exposés que nous avons eu le plaisir d'entendre dans la première partie de la session. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ?
Oui.
Vincent ?
Merci. Merci beaucoup pour cette discussion très, très intéressante. Sur laquelle j'aimerais rebondir en m'adressant plus particulièrement à Julien Perret. Et j'ai été assez interpellé par cette assimilation que tu traces entre le droit et la guerre, avec des arguments qui sont, à mon avis, tout à fait valables et auxquels je n'avais jamais pensé de cette manière-là. Mais ça m'a fait penser tout de suite au livre de Paul Ricoeur, Le Juste, dans lequel il commence justement en traçant un parallèle, enfin, en disant que l'horizon de la philosophie du droit est la paix, en opposant cet horizon de la philosophie du droit à l'horizon de la philosophie politique, qui serait celui de la guerre. Je me demande si on ne pourrait pas trouver aussi beaucoup d'arguments nous incitant à voir dans le droit et dans la justice justement l'envers de la guerre et de la violence qui lui est inhérente. Concernant, parce que j'ai l'impression, et je réfléchis évidemment en rebondissant sur ton exposé sans beaucoup de recul, que si on utilise la violence au terme d'un procès, c'est quand même non pour faire prévaloir ses intérêts propres, mais pour imposer en dernier ressort une décision de justice qui aurait été prise par un tiers, un acteur impartial qui aura examiné de manière équitable une affaire. Donc on est quand même loin du terrain de la guerre. C'était peut-être aussi une deuxième réflexion que je voulais te soumettre était la suivante. Est-ce que il n'y a pas dans cette volonté de trouver un symbole, une représentation de la justice ou de la nation française, dans l'exemple de Marianne que tu as soulevé à juste titre, une volonté de rechercher un absolu qui représenterait la justice avec un grand J, alors justice. Que peut-être une des grandes peut-être pas de découverte, mais d'une prise de conscience inhérente aux événements du XXe siècle et à l'évolution de la pensée contemporaine, est que dans le domaine des affaires humaines, dans le domaine politique, dans le domaine du droit, toute recherche d'un absolu est sans doute vaine et qu'on a affaire à des domaines qui sont avant tout relationnels. Et dès lors, on doit envisager, comme on le fait durant ces deux jours, ces questions comme des questions éminemment relationnelles, c'est-à-dire qui peuvent relier des hommes entre eux, des hommes et des femmes entre elles, avec un rôle qui est joué par chacun. Voilà, c'était deux réflexions que je voulais te soumettre. J'aimerais avoir ton avis, on peut en discuter évidemment après l'après-midi.
Ce que je propose, c'est de prendre plusieurs questions pour permettre à la table ronde dans son ensemble. Donc il y a une question de Joanne Poirier.
Merci, ma question s'adresse à la fois à Julie, à Mme Tulkens et à d'autres intervenants de ce matin. Quand je vous entends avec mes lunettes, de culture juridique un peu sommaire et binaire. J'ai l'impression, lorsque vous appelez à la motivation, à la justification de la part du juge, dans un souci d'une sorte de transparence, de plus de clarté, est-ce que vous demandez aux juges aux juges de droit civil de devenir des juges de communauté? Est-ce que c'est ça le modèle? Et si oui, comment est-ce que les juges de communauté réagiraient à cette invitation?
Est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions. On peut peut-être déjà prendre ces deux questions. Je vais laisser Julien répondre à l'interpellation qui lui a été faite. J'essaierai de répondre.
Mais, merci Vincent Lefebvre pour vos deux remarques. Bon, mais sur la seconde, oui, je suis assez d'accord avec toi sur la dimension interactionniste ou relationnelle à privilégier par rapport à la recherche d'un absolu. Pour l'anecdote, c'est en étant discutant lors d'un précédent colloque organisé dans le cadre de l'ARC que vous-même m'aviez expliqué à quel point, à travers l'exemple de Marie-Antoinette, à quel point ce mouvement révolutionnaire français était misogyne. Par rapport à Paul Ricoeur, juste petite nuance, je connais pas l'œuvre de Paul Ricoeur, donc je veux vraiment être très prudent dans ma réponse. Je visais moins le droit que le procès quand je mobilisais la métaphore de la guerre. Et d'ailleurs, Dworkin parle du juge, il parle pas du législateur ou du pouvoir exécutif, peu importe. Même si l'on sait que le juge est créateur de droit dans les systèmes de common law, en tout cas de façon plus assumée que dans les systèmes civilistes. Alors, je maintiens que le procès est un processus violent. La plupart des enquêtes empiriques le montrent, les justiciables, et en ce compris les victimes, et en ce compris, puisque c'est ces recherches que j'ai essentiellement consultées avant ce colloque, et en ce compris les victimes de violences sexuelles, vivent le procès comme une violence manifeste. Donc voilà, je lirai avec attention les travaux de Paul Ricoeur. Je maintiens simplement que le processus judiciaire tel qu'il est actuellement construit. Alors évidemment, il y a des alternatives, il y a des justices ou des appareils judiciaires qui peuvent tenter de neutraliser cette violence. Hein. On a parlé de juges non professionnels, etc. Mais néanmoins, ça reste un processus extrêmement violent. Et ça a été nuancé ce matin, mais l'image du juge arbitre impartial est quand même à largement discuté, hein, comme cela a été fait ce matin. Voilà, merci en tout cas pour tes questions.
Je pense que Jacques Comain, il voulait réagir aussi
sur
cette thématique.
Sur les deux questions, sur la première, parce qu'elle me semble avoir un rapport avec l'objet même de ce colloque. Je crois que là, dans une perspective de recherche, et d'approche critique au sens effectivement du travail de connaissance, on doit rompre avec une représentation du droit et de la justice que j'appelle consensualiste. Et on doit privilégier, me semble-t-il, effectivement, du point de vue de la connaissance, une approche agonistique qui met l'accent sur le conflit. Et là, de ce point de vue-là, les phrases de Yering sont j'y adhère totalement sur la nature du droit. Le droit est objet de lutte. Et il me semble, par rapport à notre souci dans le cadre de ce colloque, si vous voulez, c'est qu'une des façons de poser le problème de la place des femmes dans la justice, c'est de rompre avec la façon souvent consensualiste que les magistrats, que les juristes ont de présenter la question du droit ou la question de la justice. Je crois que la question de la place des femmes dans la justice est une question de rapport de force. Et donc, rappeler que, à la fois, ce que doit être la représentation des juges en termes de rapport de sexe est une question importante et une question de revendication très très importante. De la même façon qu'on est dans le cadre d'une justice dont on doit considérer de plus en plus qu'elle est souvent, comme le disent les politistes, une arène dans laquelle s'affrontent effectivement des conceptions différentes de ce que doivent être, le fonctionnement social et ce que doit être le traitement des inégalités, par exemple, entre les hommes et les femmes. Sur la deuxième question aussi, sur est-ce que, d'une certaine façon, on va de plus en plus d'un juge de droit civil à un juge de common law. Et moi, je pense que là, ce que j'ai évoqué tout à l'heure des assignations, c'est-à-dire la justice appelée à traiter de questions qui relevaient du monopole du politique ou appelée à traiter de questions qui relevaient du monopole de l'État, à mon avis, contribue effectivement à cette évolution vers plutôt, je dirais, un profil de juge de common law. Et il me semble en plus que l'enjeu est d'autant, enfin, cette, je dirais, évolution apparaît d'autant plus importante pour les juges de droit civil que le risque auquel ils sont confrontés, c'est le risque du contournement et de la marginalisation. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels on observe un effondrement des affaires civiles au niveau des tribunaux, un effondrement du contentieux. Les affaires vont se traiter ailleurs, et ceci aussi dans un contexte de globalisation dans lequel la soft law conduit effectivement à une recherche de mode de traitement des conflits, de résolution des conflits, ailleurs qu'à la justice. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi de voir, de s'interroger sur ce qu'on peut considérer comme la mythification dans nos sociétés de la médiation, dont on a une sorte de croyance et de surévaluation de la médiation qui, en quelque sorte, serait la solution précisément par rapport au problème de l'adéquation de la justice pour assurer les fonctions de régulation sociale des sociétés.
Oui, donc, puisque j'ai été interpellée brièvement, je dirais peut-être juste un mot. Il y a effectivement dans la façon dont nous avons abordé Françoise Tulli, elle est partie, hein, enfin elle va revenir, mais elle ne peut pas répondre elle-même. Donc, dans la façon dont Françoise Tulli et moi avons abordé la question de la motivation, l'idée que c'est par la motivation qu'une opinion personnelle devient acceptable, ou qu'en tout cas on peut l'exprimer, puisque si elle n'est pas motivée, elle n'est pas en tant que telle acceptable, elle doit donc disparaître. Ce qui en réalité, ce qui se passe hein, dans les systèmes continentaux, c'est que les opinions personnelles disparaissent puisqu'elles n'ont pas de place où se non seulement s'exprimer, mais aussi se fonder et s'argumenter. Je ne suis pas sûre que cet appel pour renforcer les opinions personnelles soit un appel à la transparence. Je ne crois pas que ce soit une question de transparence. Enfin, ça peut être pris sous l'angle de la transparence, à savoir ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir cette hypocrisie qui consiste à dire « on sait que c'est comme ça, mais on ne veut pas savoir comment c'est fait et surtout ne pas l'entendre ». En revanche, je pense que la transparence est un mot qui a beaucoup d'implications et que je préférerais éviter dans ce cas-là, parce que je pense que l'enjeu n'est pas tant que les points de vue personnels soient transparents, mais plutôt que l'épreuve de la publicité, donc le fait de dire et de les motiver, conduit en réalité à trier dans les opinions personnelles celles que l'on peut ou non utiliser. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends. Alors oui, c'est proche de la transparence, mais c'est moins direct que le fait de rendre transparent l'identité personnelle de ceux qui jugent. Il ne s'agit pas de demander aux juges de dire qui ils sont dans leur intimité ou de mettre sur la place publique l'intimité de ceux qu'ils sont. Il s'agit plutôt de leur permettre, par rapport à leur intimité personnelle, d'évaluer ce qui, dans leur opinion personnelle, peut être fondé au-delà de leur intimité personnelle et donc partagé par un certain nombre de personnes. Alors, est-ce que ça renvoie à un système de common law ? Probablement. Comme l'a évoqué Jacques Comaille en réponse, il y a une diffusion des modèles de common law au-delà de la common law, qui est à la fois intéressante parce qu'elle fait évoluer le droit continental. Elle permet, par différents mécanismes, de modifier certaines de nos représentations, mais d'un autre côté, qui témoigne aussi d'une forme de domination, pas seulement de la common law, mais des pays qui l'ont adoptée, et notamment des anglo-saxons et des américains en particulier. Et donc il y a évidemment derrière tout ça, il ne faut pas être trop naïf non plus, pas seulement des modèles juridiques, mais aussi des modèles économiques, des modèles sociaux, et ainsi de suite. Donc pour répondre à ces questions, il faudrait évidemment élargir le champ. Peut-être juste une chose par rapport à ce qui a été dit du conflit, et, enfin de la lutte, du rapport de force et de la guerre. Je crois que je suis d'accord avec Jacques Comaille et avec Julien Piré sur le fait que, enfin, pas ce qu'il a dit, mais je pense que c'est ce qu'il pense, que la question des femmes des femmes dans la justice est une question de rapport de force, et que donc on ne peut pas nier qu'il y a dans la justice, non seulement dans la justice des rapports de force, mais que la justice elle-même exerce ou joue un rôle dans les rapports de force sociaux, hein, et que donc par conséquent, elle exerce une forme de domination. Mais je pense que la paix et la violence auxquelles faisait référence Vincent Lefebvre par rapport à Ricoeur est autre chose. Je pense que Ricoeur, quand il parle de la paix au niveau de la justice, défend l'idée, et alors qui peut être contestée, mais que j'avais moi aussi évoquée, que la justice n'est pas une institution tout à fait comme les autres, que bien sûr il y a du rapport de force dans l'institution justice, que bien sûr l'institution justice exerce elle-même une forme de domination, mais que pour autant ce rapport de force ou cet exercice ont des particularités ou des spécificités, notamment parce que la justice exerce, et alors c'est, je pense que c'était à ça qui était fait référence, une forme de pacification. Alors bien sûr, il y a toute une mythologie, enfin il y a toute une métaphore guerrière, mais il y a aussi une métaphore de pacification, de traduction par des mots d'une violence qui est souvent beaucoup plus physique, et ainsi de suite, et je crois que c'était à ça qui était fait référence. Alors que ça n'éradique pas les rapports de force, c'est une évidence, mais qu'il faille les poser sans oublier cette finalité, non pas du droit, mais bien du procès. C'est-à-dire comme à un moment donné, c'est ce que dit Ricoeur, hein, de court-circuitage d'un processus de violence en imposant une autre type de violence, une violence dite légitime et ainsi de suite, et donc d'où la nécessité de penser la légitimité de cette violence. Mais on ne peut pas tout à fait éradiquer cette finalité-là ou ne pas en tenir compte comme si c'était une violence identique à toute une autre série de violences. Je crois que c'était un peu ça le... Enfin, je pense qu'on peut en tout cas revenir sur cette... Et du coup, voilà, bon, je ne vais pas monopoliser. Vous voulez revenir là-dessus, peut-être ?
Non, je suis tout à fait d'accord, puis je ne m'autoriserai pas à contredire Ricoeur. Non, simplement, c'est de l'ordre, en quelque sorte, cette fonction de pacification, cette mission de pacification. Et oui, c'est la mission même de la justice. Simplement, elle peut être de l'ordre de l'idéal ou du formel dans la réalité, parfois, du fonctionnement de la justice, et dans la façon aussi dont les citoyens vont solliciter la justice. Et je pense notamment à l'accroissement du recours par les mouvements sociaux à la justice. Et d'une certaine façon, peu importe le jugement, ce qui est important là, c'est de rendre, de publiciser, de mettre dans l'espace public la cause concernée. Donc il y a une sorte de marginalisation et de relativisation de la fonction même de pacification.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Juste une dernière remarque, peut-être pour faire la transition. Ce qui était intéressant dans les propos de Jacques Comaille, c'est que vous avez à la fois rappeler qu'on vit dans une époque de judiciarisation et sans doute d'augmentation pas seulement du contentieux, mais d'élargissement du type de questions qui sont adressées au judiciaire, d'une part. Et d'un autre côté, vous l'avez rappelé, on vit une époque aussi de crise de ce système et on vit une époque, en tout cas, alors, pour ne pas utiliser le mot de confiance, en tout cas, d'interrogation sur la légitimité des institutions judiciaires. Et donc, plus évidemment... Vous allez me dire, c'est éminemment lié, enfin les deux sont éminemment liés l'un à l'autre, c'est-à-dire que plus on a recours à une institution, plus la question de sa légitimité évidemment est fondamentale, et plus évidemment l'ensemble des citoyens rencontre dans son parcours de vie une fois la justice, plus les citoyens vont être sensibles à qui est le juge, et notamment si les femmes sont présentes dans cette institution. Est-ce que vous avez d'autres... Et après, dans 5 minutes, et on devra interrompre pour laisser un temps pour le déjeuner.
Merci beaucoup. Moi, je vais juste réagir une minute, parce que voilà, comme on a beaucoup réagi à mon interpellation fondée sur... juste quelques mots tirés du livre de Paul Ricoeur, mais je pense que ça permet d'ouvrir une discussion. Moi, je veux bien utiliser la question... Déjà, on est passé de la question de la guerre à la question des rapports de force, qui n'est quand même pas la même chose.
Non.
Parce que même dans un couple, il y a des rapports de force, comme tout le monde le sait. Des rapports de force partout. La guerre, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, à supposer qu'on veuille donner une définition de la guerre. La question... moi, je veux bien utiliser la guerre comme métaphore. Mais alors, ce n'est pas une définition, c'est une métaphore. Parce que c'est une guerre d'un type particulier, quand même, justement, pour rattacher notre discussion au thème de ce colloque. Une guerre qu'on peut faire avec des mots. Je pense que les femmes et les hommes, on le sait presque tous, malheureusement pas tous à l'heure actuelle, on peut la faire exactement avec les mêmes armes, pour employer encore un mot qui vient du terrain guerrier, alors que la définition de la violence la plus brutale, qui est fondée sur une force physique qui, je ne parle pas pour moi, n'est pas forcément la même pour les hommes et pour les femmes. Bien que même cet argument-là, à l'heure actuelle, non mais avec les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui, ce n'est pas un argument qui est tellement pertinent, parce que vu la manière dont on fait la guerre, mais tout notre imaginaire guerrier vient quand même de cette différence de force physique entre les hommes et les femmes, et des arguments liés à la condition physique des femmes reviennent souvent dans le débat, ou en tout cas ce sont des arguments qui ont souvent été utilisés, que les femmes ont des enfants, pas les hommes, etc. Je pense que si on utilise le vocabulaire guerrier, il faut se rendre compte de toutes les implications. C'était juste le sens de mon interpellation était ça. Et en même temps, je crois que moi, qui vient de terminer une thèse sur la pensée du droit de Hannah Arendt, je suis évidemment, je viens pas de la sociologie. Moi, je viens justement de quelqu'un qui a bâti une philosophie politique qui est fondée sur la différenciation radicale entre la politique et la violence. Donc je pense que moi aussi, je dois pouvoir entendre le fait qu'il y a ces rapports de force et que vouloir les masquer serait évidemment une grave erreur.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres...
Un petit peu, revient sur un point par rapport à ce qu'on a évoqué sur la question des enjeux auxquels la justice est confrontée, et que vous venez de rappeler aussi, c'est, je crois que la question, si je peux me permettre, par rapport au colloque, c'est pas seulement la question de la place des femmes dans la justice. Il me semble que ce qui illustre aussi ce colloque, c'est l'importance de la parole des femmes sur la justice et sur les enjeux auxquels la justice est confrontée. Et on a eu une très belle illustration tout à l'heure avec l'intervention de Françoise Tulkens.
Voilà, je vous remercie. On a... Donc j'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants de ce matin et de cette table ronde. On a un peu dépassé l'horaire, mais pas trop, c'est un miracle. Il est 1h, je vous rappelle que nous avons rendez-vous à 14h pour reprendre la session de cet après-midi, qui sera consacrée à l'impact du genre sur la justice, c'est-à-dire à la question « Les femmes juges font-elles une différence ?»